Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 24 juin 2013, et dernier du mois de juin, avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, pour faire un peu le tour du monde dans l'actualité, en commençant par l'international, avec peut-être, on est un peu moins pessimiste la semaine dernière, on a au moins deux nouvelles plutôt sympathiques ce soir. Berlusconi condamné à 7 ans de prison, il va sûrement pas les faire, et Tapie mis en examen, c'est pas désagréable pour les épris de justice tout court.
Non, il n'est pas mis en examen pour l'instant, il est en garde à vue,
oui c'est ça.
Mais il y est pour... 4 jours.
Et puis les juges, comme ils ont dit, c'est un petit malin, et qu'ils ont pensé qu'il tomberait sûrement malade au bout d'une demi-heure de garde à vue, ils ont fait la garde à vue à l'Hôtel Dieu, comme ça.
Dans un lieu médicalisé, comme on dit, oui.
Voilà, enfin,
c'est possible, hein, d'ailleurs, il n'a pas bonne mine, hein, et c'est pas d'aujourd'hui. Hein, il a vieilli un peu rapidement, ce playboy.
Ah, il a fait trop d'excès, comme l'autre.
Trop d'excès, puis c'est vrai que, il a voulu se mêler dans la cour des grands, aussi bien en politique qu'en finance, et finalement, il paye le prix, quoi.
Voilà. Alors,
pour un gars qui vient d'en bas, hein, comme on dit. Oui.
Alors, on parle d'international un petit peu. Sur quoi on ouvre? Le Qatar, la Syrie, t'as une préférence?
Sur le climat, par exemple, tiens. Est-ce qu'on est dans un réchauffement climatique ou un refroidissement climatique qui est la valeur... sur la longue durée, c'est le refroidissement qui nous attend avec un affaiblissement progressif du soleil. Et en ce moment, il fait froid. Alors, je ne sais pas si à Lyon, il fait froid, mais il fait froid.
D'ici que le soleil faiblisse, on sera mort depuis longtemps. Hein. D'ici que le soleil faiblisse, on sera mort depuis longtemps. Ouais. Allez, Hollande au Qatar. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas mal. Il y va juste après que les talibans aient pris une représentation officielle au Qatar, ce qui a mis en rogne non seulement les Américains, mais même Karzai. Voilà une compromission qui va bon train, d'autant plus qu'on sait maintenant que les investissements du Qatar ont été créés par Sarkozy au forceps de... tu sais sans doute, comme tout le monde maintenant, que les plus-values immobilières des investissements du Qatar en France sont exonérées d'impôts. C'est fabuleux, ça. Hein, le moindre con qui a travaillé toute sa vie pour s'acheter un pavillon et qui le revend avec 15 000 euros de plus-value, il a des taxes. Et ben, les Qataris, quand ils investissent des millions d'euros ou de dollars, ils n'ont aucune taxe à payer quand ils revendent le double quelques mois après. Alors, dans ce contexte-là, effectivement, ça, c'est incitatif. Hein, pour eux. Et du coup, ils reviennent. Et qu'est-ce que fait la gauche, cette gauche dont on sera amené à reparler, dans sa rigueur, dans sa droiture? Eh bien, elle prolonge l'avantage accordé par Sarkozy aux Qataris. Du coup, on les retrouve, comme on le sait, qui investissent dans le football au PSG en attendant de recevoir en 2022 la Coupe du Monde là-bas. Et puis d'un soutien inconditionnel aux salafistes sunnites un peu partout dans le monde. Mais ça gêne pas, et même quand on combat les mêmes au Mali ou ailleurs, et on est prêt à tout pour vendre à beaucoup de choses. Hein. Vinci vend des métros, des routes, il va falloir en faire pour faire la Coupe du Monde. Dassault espère vendre des Rafales, Total, Veolia, enfin... Tout le monde était là dans la cohorte des suiveurs qui cherchent à placer des investissements, enfin des commandes pour le Qatar, dans ce tout petit pays de 2 millions d'habitants qui dégorge de fric et de pétrole par tous les orifices. Voilà, tu as peut-être un peu plus à dire sur ce sujet.
Ce qui est remarquable, c'est que Hollande est arrivé à Doha, au Qatar, à un moment où il va y avoir une modification assez sensible de la direction du Qatar. Alors, on ne sait pas si c'est une révolution de palais, si c'est quelque chose qui a à voir avec rapport de force entre l'émir l'émir qui est le grand patron, et puis son premier ministre et qui visiblement voudrait être un peu prendre la place du roi. Et prendre la place, surtout au niveau de l'autorité, pas s'installer sur le trône. Et l'émir du Qatar a donc annoncé, et il est jeune, il avait 61 ans, a annoncé qu'il allait refiler le trône à son fils, son deuxième fils, qui se trouve être le chef des armées. C'est pas innocent, bon, de passer le flambeau à un de ses fils qui est chef des armées. Est-ce que c'est pour... on peut s'imaginer qu'il y a vraiment dans ce petit monde refermé sur lui-même, puisque c'est une monarchie très, très, très secrète, malgré son air de modernité qu'elle se donne. Est-ce qu'il y avait bien des tensions si fortes qu'aujourd'hui, eh bien, l'émir, le roi, veut se débarrasser du Premier ministre, soit en nommant son fils Premier ministre, ou en même temps, c'est-à-dire occupant les deux fonctions, roi et Premier ministre. Alors, ceci dit, Hollande est peut-être arrivé au mauvais moment. Ils avaient sans doute d'autres gros sujets à discuter entre eux, la famille royale. Et par contre, peut-être que ses conseils étaient attendus, qu'il allait soit donner son onction, sa bénédiction laïque. Au futur nouveau roi, ou bien donner son onction à une petite révolution de palais, et, en espérant que les intérêts des multinationales françaises soient bien pris en compte.
Voilà, et autre sujet, la Syrie et le Liban. Puisque, alors les amis de la Syrie se comptent, et ils sont de moins en moins nombreux, je parle des opposants syriens, et au début ils étaient une centaine à se déclarer prêts à faire quelque chose, maintenant il paraît qu'il n'en reste plus que 11 de pays, et qui n'ont plus que pour objectif finalement d'essayer de faciliter l'organisation d'une négociation autour d'un avenir politique pour le pays. Donc tout ça a réduit considérablement la voilure internationale. Néanmoins, bon, il paraît que sur le terrain, les rebelles sont maintenant dotés d'armes plus modernes, mais quand même pas de missiles solaires, parce que les Israéliens pensent que ce serait vraiment pas quelque chose à faire, même si ça leur serait très utile dans leur lutte contre el-Assad. Ils ont bien trop peur que ça puisse un jour se retourner contre eux. Et en toile de fond, ben, y a ces affrontements au Liban, entre des milices sunnites dans le sud du Liban cette fois, et puis l'armée régulière libanaise qui ont fait 16 morts, je crois, à l'heure qu'il est, dans des affrontements en toile de fond, bien sûr, du soutien des chiites libanais et au régime de el-Assad.
Oui, on contrôle. Enfin, cet affrontement avec des djihadistes sunnites, hein, qui avaient déjà eu maille à partir avec l'armée libanaise dans un camp de réfugiés palestiniens sur lequel ces djihadistes avaient mis la main il y a quelques années. Bon, ils avaient été éliminés, ça avait fait d'ailleurs beaucoup de morts. Et visiblement, ils sont ressortis de leur défaite, et aujourd'hui, ils ont repris du poil de la bête, puisque visiblement, ils s'installent dans cette guerre civile élargie maintenant à une portion du Liban. C'est effectivement c'est un facteur à la fois nouveau et pas nouveau. Ils étaient là, une force latente qui donc avait été décimé et qui donc s'est reconstitué et qui prend part maintenant à la guerre. Si sur le principe diplomatique, Il y a eu aujourd'hui, on a lu une déclaration du ministre des Affaires étrangères de Damas, donc du pouvoir en place, et qui, au nom du gouvernement et de Bachar el-Assad, a déclaré que, de toute façon, dans aucune négociation auquel le gouvernement participerait, il serait question du retrait de Bachar. Et en précisant que si la deuxième conférence de Genève qu'essaye de mettre en place russe et américain avait comme obligation première, c'est-à-dire de faire que Bachar en soit exclu, eh bien que c'était même pas la peine de faire cette réunion à Genève, le ministre disant même que si le pouvoir actuel à Damas souhaitait, il faut même de l'humour, hein, s'il souhaitait transmettre le pouvoir, il n'avait pas besoin d'aller à Genève pour le faire, qu'il pouvait très bien le faire à Damas, mais que ce n'était pas du tout les objectifs actuels du pouvoir en place en Syrie. Sur le fond, ça ne change rien, c'est pas un durcissement, c'est une position de part et d'autre réaffirmée, sauf que finalement, cette position dure d'Al-Nusra, qui est la force djihadiste principale des rebelles. D'abord, elle est pas forcément unanimement partagée par les rebelles. Et ensuite, elle inquiète plus qu'elle ne satisfait les Occidentaux, l'OTAN, Américains et Russes. Et surtout, bon, les Russes, autant qu'ils l'ont dénoncé, mais les Américains sont très gênés. Et on s'aperçoit que finalement, Hollande et Fabius ne sont plus en première ligne dans les déclarations comme ils l'étaient encore il y a un mois ou deux.
Voilà, autre sujet, la jeunesse dans le monde, eh ben, en Turquie, au Brésil, donc après une semaine de manifestations, ça continue, au départ des revendications très concrètes qui maintenant tendent à s'élargir dans un grand mouvement, puisqu'il y a 100 villes de concernées, alors qu'au début c'était Sao Paulo, c'est des centaines de milliers, peut-être des millions de jeunes qui descendent dans la rue. Dilma Rousseff, la présidente, se donne un mal fou pour essayer d'endiguer tout ça avec des promesses, des mots, toujours des mots. Mais elle se garde bien de dénoncer les exactions policières. Elle parle d'améliorer les services publics et de diminuer la corruption. Ça coûte rien. Le faire, c'est beaucoup plus difficile. On en sait quelque chose en France aussi. Alors, ce Brésil qui subit quand même une certaine crise économique, puisque il y a un peu plus de 10 ans, ils étaient à des 7-8% de croissance. Ils sont tombés à 1% en 2012. Il est évident que ça pose des problèmes. Du coup, le gouvernement a dévalué. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, pour un certain nombre de produits, il y a de l'inflation qui repart. Les prix augmentent. Et puis, comme toute la population et tous les jeunes n'ont bien entendu pas du tout bénéficié de l'évolution positive au moment où elle avait lieu, et ben, cette classe de la jeunesse qui s'estime spoliée se rebelle et descend dans la rue. Avec toujours ce problème d'un mouvement, alors ils appellent à une grève générale et les syndicats devaient se positionner suivre cet appel-là ou pas. Le problème des mouvements spontanés de jeunes, c'est un peu pareil en Turquie, c'est qu'ils ne sont pas structurés, bien sûr, politiquement, pour le plus souvent pouvoir donner une forme qui débouche sur une contestation susceptible de renverser le pouvoir, ou du moins d'imposer des infléchissements extrêmement cadrés, quoi. Donc, alors, exutoire qui peut retomber comme un soufflet, ou poursuite de ce mouvement qui débouchera sur une grande révolution populaire au Brésil, difficile de le dire.
Oui, c'est comme en Turquie. En Turquie, effectivement, ça a démarré sur cette affaire de parc que le gouvernement où la ville, les deux à la fois d'Istanbul, voulait transformer en mini-zone zone commerciale. Et puis ça a débouché sur une contestation globalisante du pouvoir d'Erdogan, en place depuis 10 ans, avec finalement la conjonction de forces qui ne combattent pas forcément avec les mêmes motifs. Hein. Les écologistes ont peu de choses à voir avec les nationalistes qui défendent pur et dur la vieille Turquie, même pas celle d'Atatürk, une autre Turquie, et qui sont hostiles aux négociations en cours avec les Kurdes et Okanian, notamment parce que ça remet en cause l'unité de la Turquie. Donc il y a des conjonctions de forces, et puis il y a sans doute effectivement des groupes mafieux, parce que ça existe aussi en Turquie, et qui manipulent les jeunes. Ils y vont avec leur bonne foi, avec leur sens de la révolte, le goût de la liberté, le goût de pouvoir dire et faire ce qu'ils ont envie de faire, comme ils pensent que ça se passe un peu partout sur la planète. Et ils ont toujours le regard sur les pays, les Eldorados européens et surtout américains. Bon, là, ils font de grosses erreurs, mais ils se contentent effectivement de ce qui brille, et puis souvent, ils ne vont pas regarder plus loin. Et on peut dire que les Brésiliens, la jeunesse brésilienne qui s'est lancée dans ce mouvement, c'est parti effectivement problème social, économique, sur le prix des transports, qui au départ d'ailleurs ne touchait que les classes les plus modestes, et puis ça a débouché sur les classes moyennes qui en profitent pour dire qu'elles n'ont pas leur place comme elles devraient l'avoir dans le Brésil d'aujourd'hui. Et puis sûrement plus au Brésil que dans tout autre pays, en sous-main, il y a des groupes mafieux très très puissants qui sont liés bien aux vieilles traditions de ce qui s'est pu se passer d'ailleurs entre l'Europe du Sud, notamment l'Italie, et puis le Brésil et le sous-continent sud américain. Et donc ces mafias que le pouvoir était en cours de démanteler. Et bon, c'est toujours pareil, lorsqu'il s'attaque à une mafia, il y a des bavures, et bavures policières. Effectivement, les vrais mafieux, ils savent se mettre à l'abri, et puis c'est souvent la population qui prend les coups, et c'est de ça aussi dont il est question dans la protestation actuelle. Mais la mafia essaye de rétablir une partie de son pouvoir qui lui a un peu échappé sous la pression gouvernementale. Et puis, comme on l'a dit, il y a cette affaire du football. Alors c'est curieux, parce qu'en ce moment, il y a une coupe internationale, une coupe mondiale des continents. Et donc, il y a une quinzaine d'équipes dans les grands stades qui se disputent une coupe. Ça fait beaucoup de monde, ça fait des stades pleins. Là, dans les stades, on n'a pas entendu protester contre la dépense. Et puis, on peut dire que c'est la partie, le tremplin, sur l'organisation de la Coupe du Monde de football elle-même qui a lieu l'année prochaine, et qui, bon, on donne des chiffres, 10 milliards, 20 milliards, qui verse les 10, les 20 milliards. Bon, on sait que les États les mettent sur la table, ils font beaucoup de travaux, on ne sait pas trop si les travaux vont servir à quelque chose plus tard, une fois éteints les feux de la fête. Et puis, on sait aussi que ces milliards, c'est souvent maintenant l'audiovisuel qui les paye. Toutes les télés du monde qui débarquent, eh bien, elles doivent payer pour retransmettre. Donc, c'est pas forcément une énorme dépense actuellement, organiser des compétitions internationales, mais a priori, les gens ont l'impression qu'ils sont vraiment dépossédés de toute possibilité d'intervenir sur ces grands moments.
Brésil-Portugal, hein, il y a un lien. C'est peut-être le moment de dire aussi qu'au Portugal, ça chauffe avec une jeunesse qui, elle aussi, proteste contre les mesures de restriction. Et je crois que c'est demain ou après-demain qu'il y a un lancement d'un grand mouvement social auquel même les patronats s'associeraient. C'est assez surprenant puisque c'est un gouvernement relativement centriste qui est là-bas. Mais les conditions imposées par l'Union européenne sont telles que ça met tout le monde sous pression et que les protestations, comme en Grèce, comme ailleurs, se développent.
Quoi. Mais patronat, effectivement, avec... Il est sur... il a deux fers au feu. Hein. Bon, il demande à ce que les banques et l'État injectent de l'argent pour l'investissement. Et en même temps, il demande également à l'État qu'il réduise les charges sociales. Donc, il y a à la fois le côté traditionnel, on va dire, conservateur du patronat, de tous les patronats d'ailleurs, qui partout en Europe demandent un abaissement des charges sociales, tout en demandant effectivement au milieu financier de créer de permettre l'investissement pour lutter contre l'austérité. Donc c'est habilement joué par le patronat.
Voilà, une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est les grandes oreilles américaines, les grandes oreilles anglaises aussi, parce que qui ne s'en doutait pas que les Américains ayant créé Internet et l'ayant inondé le monde avec, n'avaient pas pris les moyens de le surveiller, de l'espionner. Alors il y a cette affaire d'un individu un petit peu bizarre qui a révélé que effectivement le gouvernement avait pris ses dispositions pour écouter des 600 millions de connexions par jour pendant 18 mois. Ce qui est le plus marrant et étonnant là-dessus, c'est que le type est poursuivi par les Américains pour espionnage. Alors que s'il y en a qui espionnent illégalement, c'est pas lui, c'est quand même bien les autres. Lui, il a fait que déballer ce qu'il savait sur ses pratiques. Du coup, les Anglais, eux aussi, sont confrontés à la même pratique. Je m'étonnerais beaucoup qu'en France, il n'en soit pas de même, même si le scandale n'a pas encore éclaté. Donc, tout ce qui circule sur Internet est susceptible d'être capté par des énormes mémoires et éventuellement être trié par des logiciels sophistiqués qui vont là-dedans rechercher ce qui les intéresse. Quoi. Alors là, le sort de Snowden, je crois il s'appelle, nous intéresse moyennement. Il serait parti en Russie, on parlait d'un refuge en Islande, maintenant on parle d'un refuge en Équateur où leur anti-américanisme génétique fait qu'il pourrait être protégé d'une éventuelle extradition. Mais bon, au-delà du personnage, ce qui est important, c'est effectivement cette connaissance que l'espionnage, il est organisé par les États et que sa dénonciation, plutôt que d'être un délit, ça me semble plutôt être une mesure de salubrité publique. Mais bon, tout le monde ne le voit pas comme ça, même dans les grands médias français.
Mais oui, les Américains... Obama n'a rien dit, mais c'est...
C'est bien emmerdé.
C'est son entourage qui exprime la colère américaine à l'égard à la fois de la Chine, à cause de Hong Kong, et puis à l'égard de la Russie, qui est terre de transit ou d'accueil. Ouais.
Voilà, mais il va retrouver Depardieu, là-bas, ils sont bien ensemble. On dit un mot de la Grèce où la télé publique est toujours fermée, alors elle reçoit cependant le soutien de la population qui, dans la rue, campe devant les locaux et réclame la réouverture. Et puis ils résistent aussi à leur manière en développant une télé sur Internet qui permet quand même de diffuser des informations, mais la décision d'une réouverture régulière et officielle n'est pas prise. Pendant ce temps-là, crise gouvernementale avec la gauche démocratique, le Dimar, qui déclare ne plus soutenir la coalition gouvernementale, donc on pourrait aller vers un remaniement ministériel avec des lois qui ne font pas du tout consensus. C'est sans doute la raison, entre autres, du désinvestissement de la gauche démocratique, comme des lois sur le racisme. Voilà. Avais-tu d'autres choses à dire dans cette rubrique internationale avant de faire une pause musicale ?
Peut-être signaler qu'on votait hier en Albanie, et que, semble-t-il, une nouvelle fois, de part et d'autre, ou d'autre et de part, on a bourré les urnes, ce qui fait que depuis des années, les élections sont contestées et contestables forcément. L'Albanie qui joue pourtant un rôle important, notamment par rapport à la recomposition des Balkans. On sait que l'Albanie cherche, elle a rejoint le monde capitaliste facilement, et elle essaye de retrouver le sens de la Grande Albanie, avec essayant de plus ou moins d'attirer le Kosovo, qui est peuplé d'Albanais. C'est cette Albanie-là qui mène une diplomatie forte, qui plus est accueille sur son sol, je crois, il y a des unités ultra secrètes de l'armée américaine qui servent pour... ça servait, mais ça va sûrement servir encore, tourner à la fois vers la Russie, mais vers le sud aussi, vers l'Afghanistan, vers le Pakistan et tout ça. Et l'Albanie, c'est un peu devenu la chasse gardée des Américains. Et puis, alors, est-ce que c'est un effet d'annonce ? Merkel, elle n'est pas d'habitude partisane des effets d'annonce, mais on nous dit qu'elle a surpris tout son monde dans le congrès de son parti. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle allait relancer l'investissement et l'économie, en quelque sorte qu'elle allait changer complètement la politique d'austérité qui était menée ici au titre de la solidité de sa propre pratique de l'euro, mais aussi solidité de son commerce extérieur et tout ça. Est-ce que ça va amener son mentor, qui est le ministre des Finances, un dur de dur, vraiment un pur sucre du conservatisme traditionnel en matière de monétarisme. Mais c'est à 3 mois des élections pour elle, et c'est quand même temps d'y penser, parce que l'été va arriver. Et si elle ne déclenche pas quelque chose avant l'été, c'est mal parti, alors qu'elle a déjà perdu plusieurs États.
Donc une opération démagogique, c'est du moins ce que déclare le SPD, qui ne croit pas un mot des engagements qu'elle va réellement prendre derrière ses propos flatteurs. Puis on dira peut-être un mot de la Hongrie aussi, qui est un petit peu sous pression, faible la pression, de la Commission de Venise de l'Union européenne, qui s'inquiète du devenir de la démocratie en Hongrie et qui prend une mesure à l'endroit des Hongrois, un petit peu vexatoire mais sans contrainte, de les mettre, ils appellent ça, sous monitoring. C'est marrant, le monitoring en question étant une observation du pays et des décisions qui sont prises, des lois qui sont votées, qu'on réserve habituellement aux pays candidats avant leur admission. Et là, comme ils en font quand même beaucoup, les Hongrois, la dernière, ce serait de verrouiller l'acquisition de terres par des étrangers. Et ils font beaucoup de lois qui vont à l'encontre des dispositions que les Européens veulent voir appliquer. Eh bien, il y a un petit peu de pression qui s'exerce contre eux. Allez, pause musicale, il est temps.
Peut-être quand même. Juste une phrase. C'est Montebourg qui traité Barroso, il a dit que c'est le carburant du Front National. Et alors il y a Mélenchon qui a dit, eh ben, si Barroso est le carburant, c'est Hollande le pompiste.
On reviendra peut-être là-dessus en rubrique nationale.
Oui, voilà, exactement, ça ouvre sur le national, oui.
Pause musicale en hommage à Mandela, qui est encore vivant, mais c'est peut-être ses dernières heures, enfin encore vivant, à ce qu'on en sait. En tous les cas, il ne va pas bien, et bon, on sait que c'est sûrement la fin pour lui. Alors, la chanson de Johnny Clegg, qui s'intitule Mandela, c'est-à-dire Asibonanga.
Asimbonangu Mandela tina la pekona la pehleli kona Asimbonangu Mandela tina la pekona la pehleli kona.
Asibonanga, c'est Johnny Clegg, bien sûr, l'hommage à Nelson Mandela, toujours vivant à l'heure qu'il est, à ce qu'on en sait. Rubrique nationale de ce Canu Info sur Radio Canus 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Canu Info du 24 juin 2013, avec ce résultat électoral bon, qui a à la fois une grande importance, puis une tout petite, parce que c'est jamais qu'une huitième circonscription qui passe à droite. Celle-là est un peu particulière, puisque c'était celle de Cahuzac, et que... Merci, M. Cahuzac. D'ailleurs, lui, on parle toujours, c'est pas si grave ce qu'il a fait. Certes, il a menti, c'est peut-être pas très grave. Il a mis de l'argent en Suisse, à la limite, on peut encore considérer que c'est pas très grave. Mais quand on pense que ce type-là qui avait fait ça, mettre de l'argent à l'étranger, était chargé de la répression de la fraude contre ceux qui mettaient de l'argent à l'étranger, alors là, ça devient énorme, quoi. Je crois que les électeurs du Lot s'en sont rendus compte et qu'ils n'ont pas voté socialiste et pour cette raison, c'était trop gros. Bref, le résultat des courses est un résultat favorable à un UMP, mais de peu, hein, 4% des voix, 2546 voix, contre un FN. De toute évidence, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun scrupule à voter FN maintenant, à force de ne pas avoir interdit le FN quand il fallait le faire. On l'a poussé à se banaliser et il ne demandait que ça. Donc le FN se tape sur le ventre en criant « La prochaine fois, on fera encore mieux et on va bien finir comme ça par arriver au pouvoir. » Ce à quoi un certain nombre d'électeurs semblent vouloir aller aussi. Ceci dit, il n'y a eu que 50% de votants. Hein. Avec 80%, on ne sait pas à combien ils seraient arrivés, mais ils sont quand même arrivés à 47% sur ceux qui ont bien voulu se déplacer. Quoi. Alors, voilà, y a-t-il eu des transferts de voix de gauche? Sûrement quelques-unes vers le FN, et puis sans doute le Front Républicain tel que le PS avait appelé implicitement, enfin pas tout le monde, n'a pas tellement fonctionné. Le FN, quant à lui, parle de Front Républicain égale Front des copains, évidemment. Il est un petit peu tout seul pour le moment, encore que du côté de l'UMP, il y a des liens d'amitié très forts qui se tissent entre certaines branches de l'UMP et puis le Front National, et qu'ils veulent faire entre eux un front anti-républicain qui pourrait bien fonctionner aux prochaines municipales. Voilà, Robert, tu as peut-être aussi quelque chose à dire sur cette élection.
Simplement au niveau du rétrécissement de la marge de manœuvre du PS, perte de siège après perte de siège, je crois qu'ils n'ont plus, en tant que PS, c'est-à-dire majorité absolue, n'est plus que de deux voix, je crois, deux ou trois. Là, il y en a une, enfin, ça peut être deux, ça peut être trois. Ce qui fait que s'ils perdent encore quelques députés, les Verts vont enfin pouvoir se frotter les mains en disant « Ah, maintenant, il faudra qu'ils nous écoutent un peu plus pour faire une majorité stable ». Enfin, non, ça, on n'est encore pas là. Hein. Le PS peut encore se passer des Verts pour faire passer les lois. Non, sur le contenu même, effectivement, c'était l'affaire Cahuzac ne pouvait pas produire d'autres résultats que celui-là. Hein. Je crois que ceci s'ajoutant effectivement au désarroi, ça ne pouvait que produire cette catastrophe pour le PS.
Plus globalement, ce qui est un peu étonnant, c'est la réaction de Hollande face au résultat. Hollande ne dit pas « il faut absolument qu'on change tout, qu'on fasse une vraie politique de gauche pour favoriser les travailleurs, les petites gens ». Non, il dit « mais qu'est-ce que stratégie électorale on va bien pouvoir mettre en place pour garder nos élus aux prochaines élections municipales. Le reste, il en a rien à foutre. » Et on a vraiment l'impression que la gauche, là, a trahi son idéal, ses promesses, sa vocation. On a affaire à une classe de technocrates dirigeants qui pensent à leur lendemain de situation et pas du tout aux problèmes des retraités, des auto-entrepreneurs, des chômeurs, des RMistes, des tout ce qu'on voudra, qui, eux, sont dans la dèche et qui voient chaque mois s'alourdir de 30 ou 40 000 le nombre de chômeurs en France. Alors, on nous a baratiné en cette fin de semaine avec une mesure qui consisterait à prendre 40 000 chômeurs de les former FISA et dans 4 mois de les mettre au boulot. Bon, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils y arrivent, parce que mais enfin, ça fait bien dans les discours, de là à ce que ces 40 000-là soient au boulot dans 4 mois, avec le mois de juillet et le mois d'août au milieu, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Quoi. Voilà comment les socialistes nous traitent, la population, et on s'étonnera après qu'ils perdent des élections. Quoi. Alors, Alors, social encore, peut-être, social et politique, Virgin, finalement, les salariés de Virgin se sont battus, 10 jours d'occupation des magasins, ils auront, c'est une maigre consolation, mais c'est toujours ça, une prime de départ de 15 000 euros au lieu des 8 000 par salarié que le patron voulait leur octroyer. Alors, ils ont réussi, donc, par cette occupation, à mettre la pression et à récupérer une bonne partie des soldes, du bénéfice des soldes de la honte, comme ils les ont appelés, ces soldes où on a liquidé tout ce qui restait dans les magasins à moitié prix. T'as d'autres infos sociales peut-être, Romain ?
Oui, finalement cette sortie du conflit Virgin, c'est d'une grande tristesse parce que 15 000, c'est à peu près une année de SMIC, à peu près. Hein.
Ouais.
15 000.
Ouais.
Quand ils auront bouffé 15 000, ça va être vite bouffé. Hein. Ouais. Et alors certains vont se lancer dans des petites entreprises du type entrepreneur. On fait miroiter ça beaucoup aux gens. Hein. Alors pendant un an, ça va parce qu'on ne paye pas d'impôts, ne paye pas de taxes, ne paye pas de ceci. Et puis au bout d'un an, eh ben, ils sont complètement appauvris, ils n'ont plus qu'à aller s'inscrire à la NPE, à Pôle emploi. C'est triste, on ne sait pas si parmi les salariés de Virgin, certains ont envisagé de faire quelque chose avec l'outil. Et c'est tout le problème des entreprises qui ferment, des points qui ferment. Virgin, à la limite, c'est une entreprise au plan international qui prospère. Donc, on peut presque considérer que c'est l'équivalent d'un licenciement boursier. Parce que tout n'a pas été fait pour que Virgin en France soit à la hauteur. Et peut-être faire une coopérative, eh bien non, il semble que trop découragé, les gens n'y pensent pas, n'ont pas du tout envie de tenter quelque chose qui relèverait leur enthousiasme. Et on le voit dans d'autres cas, et avec Fralib, à Gemnos, à côté de Marseille, boîte qui notamment produisait le thé et l'éléphant, et c'est Unilever, le multinational. Eh bien, il y a une coopérative, mais ça tarde, ça fait 3 ans. Là, les gens d'ailleurs de Fralib vont fêter leur millième jour de lutte. À cette occasion-là, le 28, donc dans quelques jours, ils vont faire un grand rassemblement de convergence de tous les gens qui sont en lutte la plupart du temps, c'est par rapport à l'emploi, par rapport au licenciement qui est leur seule perspective. Fralib n'arrive pas. Bon, il semblerait que il faudrait qu'un peu de choses de la part du gouvernement pour qu'aujourd'hui Fralib devienne une coopérative. Mais au gouvernement, visiblement, on ne veut pas trop heurter une multinationale comme Unilever, parce que peut-être qu'ailleurs, on cherche des compromis capitalistiques sur d'autres sites de production. Et c'est toute l'attitude de ce gouvernement, et on comprend que les électeurs et les citoyens le pénalisent à juste titre, ce gouvernement, parce que effectivement, il ne tient pas cette promesse qui était effectivement partout où il y aurait de la casse sociale, eh bien, le gouvernement donnerait aux travailleurs, aiderait les travailleurs, leur donnerait les moyens et les encouragerait effectivement à autoproduire, à auto-organiser, etc.
Je voudrais revenir.
On va avoir le même cas avec un nouveau dossier qui était connu depuis longtemps. C'est à Marseille, la Société Nationale Corse Méditerranée. C'est les grands transports donc vers la Corse, comme son nom l'indique, maritime. 800 emplois vont être supprimés sur 1400. Alors, la compagnie explique que de toute façon, il n'y aura pas de licenciement sec là-dedans. Ce qui se passe, eh bien, c'est Veolia qui est capitaliste propriétaire majoritaire de SNCM. Et l'État a 25 ou 30%, le gouvernement, donc il a une minorité de blocage, il peut intervenir d'une sorte... Non, il laisse jouer le système capitalistique qui est celui, effectivement, de l'austérité et pas du tout du redémarrage de la croissance, quoi qu'on pense par ailleurs de la croissance. Et d'ailleurs, cas tout à fait particulier, la SNCM n'avait pas pu obtenir le transport qui va être très important de tout le staff et puis les coureurs et puis tous ceux qui suivent du Tour de France, puisque le Tour de France part à la fin de la semaine de Corse et qu'il fait 3 étapes en Corse et qu'ensuite il faut ramener tout ça. Eh bien, c'est Corsica Italo, là, Corsica, je ne sais plus le nom, bon, c'est une compagnie concurrente italienne qui a obtenu le marché. Voilà, et tout est comme ça à l'avenant. Il y a un autre gros dossier qui va considérer que tout l'été, il va être présent. C'est le dossier des 3000 travailleurs plus ou moins saisonniers. Là, la plupart seront étrangers du nord, de l'est et puis un peu du sud, et qui vont construire ITER. ITER, donc, c'est ce produit mirifique qui doit pouvoir capter l'énergie solaire et puis la transformer. Mais pour l'instant, une chose dans les cartons, hein, c'est expérimental. Mais on va quand même construire l'engin. Et pour le travail de base, bien 3000 travailleurs vont être recrutés. Et puis on les recrute, mais on ne sait pas ce qu'ils vont. On n'a rien prévu. On va les loger, on ne sait pas où. Ça va être un vrai scandale. Et puis la situation de salariés, de couverture sociale, va être très liée au pays d'où ils viennent. Et puis, dernier point, on écarte un peu, c'est-à-dire qu'on ne force pas pour que ce soit des travailleurs français qui prennent ces emplois. Parce que les travailleurs français exigeraient d'être effectivement aux normes du Code du travail en France. Voilà, un énorme dossier pour la rentrée et dès le début du mois de juillet, il va y avoir d'ailleurs une grande réunion, une commission de liaison sur le nucléaire qui va se tenir à Cadarache, à côté, à Avignon, le 3 juillet. Et tout ça va être mis sur la table et ça risque d'être très chaud.
Voilà, je voulais apporter peut-être, je sais pas, c'est une rectification, un complément sur Virgin. Hein. Les types devraient recevoir leur lettre de licenciement le 1er juillet. Tu dis ils vont aller s'inscrire au chômage dans un an. Non, le 2 juillet, je pense, ils vont pointer à Pôle emploi et le fait d'avoir une prime de licenciement ne les dispense pas de leur droit au chômage du jour où ils sont licenciés. Hein. Bon, ça n'empêche que quand ils se sont achetés une bagnole avec les 15 000 euros, il restera pas bien. Oui. Bon.
J'évoquais ceux qui vont se lancer dans ce qu'on leur vante, c'est-à-dire devenez vous-même votre patron, devenez auto-entrepreneur. Alors vous vendrez des pizzas, vous vendrez je ne sais pas quoi. Et puis certains se lancent là-dedans, hein, on en voit tous les jours. Mmh. Et ça dure un an. Et puis après, c'est retour à la case départ. Oh, mais ça, c'est c'est une minorité sans doute.
Les statistiques montrent qu'il y a un auto-entrepreneur sur 10 qui pérennise son emploi dans une SARL ou une autre formule autre que l'auto-entrepreneuriat. Je me posais une question, c'était les 24 heures du Mans hier. La question, c'est le mort des 24 heures du Mans, là, qui a raté le virage, est-ce qu'il va rentrer dans les statistiques des accidents de la route ou pas en 2013? Parce que certes, il dépassait les vitesses limitées à 90 à l'heure, mais voilà, alors est-ce qu'on nous fabrique des statistiques avec ce genre-là d'accident ou pas du tout. La compétition, qu'elle soit à vélo ou en bagnole, est toujours une énorme connerie et liée au pognon, évidemment.
Oui, elle est extra sortie du droit traditionnel.
Voilà, Scanu Info se termine et il va être 20h. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez également le réentendre sur Internet. Et nous vous invitons, pour en savoir plus sur le 21 juin 1943, où on a pu lire pas mal de choses diverses et variées, et surtout variées, à écouter une émission qui fait un petit point sur l'histoire de cette journée. Bonsoir et rendez-vous donc lundi prochain pour le prochain Canu Info. Prochain Canu Info du lundi, évidemment, parce que je pense qu'il devrait y en avoir un mardi, c'est sûr, même presque mercredi, jeudi, vendredi, comme tous les soirs sur Radio Canu.